Bonsoir Aude, on vous retrouve demain soir pour un nouveau carnet de la création. Bonsoir à toutes et à tous. Are you racing or watching? Sometimes I wonder about you. Are you racing or watching?
La dispute. Ce soir, le cinéma.
La dispute est à Cannes ce soir, à mi-parcours de cette 69e édition du Festival international du film. L'an dernier, la sélection des films en compétition avait été assez largement, comment dire, vilipendée. Qu'en sera-t-il cette année? C'est ce que nous dirons nos deux critiques de ce soir, forcément objectifs puisque parfaitement étrangers, l'italien Fabio Ferzetti d'Il Messaggero et l'anglais Jason Solomons de notre consoeur la BBC, rejoint tout à l'heure d'un coup de téléphone par Arnaud Laporte lui-même. Au programme ce soir, après un rapide tour d'horizon de la cuvée 2016 du Festival de Cannes, nous nous disputerons autour de deux films en compétition que tout le monde peut ou va pouvoir voir puisqu'ils sortent en même temps que leur présentation dans le Palais des Festivals, Julieta de Pedro Almodovar et Malout de Bruno Dumont. On parlera aussi du film qui remporte tous les suffrages des critiques, Tony Erdmann de l'Allemande Maren Hadé et du très attendu Neruda du Chilien Pablo Larraine. Ce sera après la revue de presse culturelle d'Émilie Chaudet dans une vingtaine de minutes. Il y aura, comme tous les soirs, un jeu qui vous fera gagner ce soir des DVD du film Toto et ses sœurs d'Alexander Nanao, prix France Culture Cinéma des étudiants cette année à Cannes, distribué par JHR Film. Quant à l'invité de la dispute, c'est depuis hier et pour toute la semaine, le chanteur et compositeur libanais Bachar Mar Khalife. Avant de nous disputer sur Julieta, s'ils sont à jour et que j'ai bien compté, nos critiques ont dû voir 13 des 21 films en compétition. Alors, quel avis sur cette première moitié de programme? Est-ce que ça promet un bon cru, Jason Solomons?
Oui, vachement mieux que l'année dernière, ce soulagement. En fait, tous les films, ils sont d'un intérêt, ou ils sont très intéressants, ou ils sont très, 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 très puissants de ce que j'ai vu. Le niveau est vraiment haut, je dis.
Fabio Ferzetti, même sentiment?
Oui, j'ai un sentiment un peu de discontinuité, mais ça arrive tous les ans. J'ai quand même l'impression que le festival change et qu'il y a de plus en plus de films qui sont choisis pour des raisons, disons, pas strictement cinématographique, enfin, au moins dans le sens que nous donnons à ce terme, nous, les critiques. Ce sont surtout les stars, l'aura, enfin, disons, l'image du film qui compte, je ne veux pas dire la production, mais enfin, ils sont là pour des raisons, disons, médiatiques plutôt que à strictement parler de cinéma.
Ou politique, peut-être.
Politique, peut-être.
Et est-ce que vous avez déjà repéré des tendances qui se dégagent? Il y a pas mal de sexe cette année. Il y a un peu tous les genres de films. Il y a de beaux personnages de femmes aussi. Qu'est-ce que vous voyez émerger?
Il y a beaucoup de sexe manuel cette année, j'ai remarqué. Je ne sais pas, c'est l'année de la branlette, ça peut être comme ça en France.
De la solitude, on dira.
Non. Même il y a dans le film d'Andrea Arnold, l'anglaise qui a tourné un film aux États-Unis. À un moment donné, il y a un type qui paye donc la fille, hein, mais enfin, il se contente. Voilà.
Et dans le film d'Assayas aussi.
Le film d'Assayas, enfin, c'est bizarre,
avec,
non
avec c'est... Oui, c'est
ça
bizarre de thème.
Ça peut toujours dire quelque chose, hein, ça n'est jamais
On est seul dans le monde, c'est
voilà, où c'est l'année des préliminaires, mais on ne conclut pas cette année. Alors, pas de gros scandales non plus cette année, pas de films qui font hurler les gens, qui
pas
font partir.
Pas en cours, il y avait des petits hurlements après l'Olivier Assayas l'autre jour, de Personal Shopper, que j'ai trouvé un peu impoli même, parce que c'était un film d'intérêt, c'était pas parfait, mais c'était intéressant. Et elle, je crois qu'elle était magnifique dedans, Kristen Stewart.
Voilà, mais on n'est pas dans des années où des rangées entières de personnes se lèvent en faisant claquer leur siège, en hurlant que c'est scandaleux de montrer un film pareil à Cannes, et que d'autres disent, mais vous êtes des crétins, vous n'avez rien compris, quoi, Fabio Ferzetti.
Non, ça n'arrive plus, peut-être, hélas, enfin, ça fait partie aussi du spectacle et du jeu, disons, enfin, c'est un peu... En arène, enfin, on avait le Colisée à Rome. Enfin,
c'est peut-être trop cher maintenant, de ces jours. C'est trop cher. Vous venez à Cannes, vous payez, vous restez. Hein. Ça vaut le coup.
Il faut dire aussi que cette année, il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas venues à Cannes. On parle beaucoup de tous ces Américains qui n'auraient pas fait le déplacement de peur d'un attentat sur la croisette. Vous avez vous-même des collègues dont vous savez qu'ils ne sont pas venus?
Non, pas pour ces raisons comme ça. C'était plutôt des raisons économiques parce que ça coûte vraiment cher. De plus en plus, le plus cher Cannes que j'ai jamais su.
Oui, l'argent fait plus peur que le terrorisme pour l'instant. Aussi. Par contre, l'autre jour, en rentrant au Majestic, on m'a vraiment laissé, bon, je veux bien, j'ai peut-être une tête qui inspire la confiance, mais enfin, j'aurais aimé qu'on fouille mon sac quand même. J'aurais pu avoir 3 bazookas sur moi.
Oui, moi, j'aurais été là, je vous aurais fouillé, Fabio Ferzetti. Alors, cette année, il n'y a pas d'Italien en compétition. Il y en avait trois l'an dernier. En même temps, des Italiens, il y en a partout ailleurs. C'est vécu comment chez vos confrères italiens cette année sans?
Non, ce n'est pas pas vraiment, puisque enfin, on a surtout crié on n'a pas de film à Cannes pendant une semaine, et après on était gêné pour dire finalement il y en a 6 dans les autres sections parallèles. Moi personnellement, j'ai écrit, vous savez, la quinzaine, c'est très important. Le certain regard, c'est parfois très bien. Un film hors compétition comme le documentaire sur la plage de Trieste qui est divisé en 2 aussi, c'est très important qu'il soit. Enfin, c'est important d'être à Cannes. Si on a 6 films éparpillés dans toutes les autres sections, soi-disant parallèles, c'est beaucoup.
Voilà, et même quand il n'y a pas Sorrentino, Moretti ou Garonne et qu'il y a un film de près, le cinéma italien existe toujours. Vous, par contre, vous êtes gâté. Jason Solomons, 2 films anglais en compétition. Andrea Arnold et évidemment Ken Loach.
Évidemment,
il n'y a pas de festival de Cannes sans Ken Loach.
14e fois, je crois. Et c'était un excellent film, j'ai trouvé, de Daniel Blake, typiquement Loachian, je dirais. Et Andrea Arnold qui hérite un peu son manteau, un peu social réaliste, mais maintenant transposé en Amérique. Moi, je trouve ça, c'était très, très beau ce qu'elle a fait. Différent, audacieux. Mais le manque de Britanniques dans le reste, ça me donne un peu peur, hein, parce que ça veut dire, vous, les Italiens, vous avez 6 dans les autres sections, mais nous, les Britanniques, on n'est pas là. Donc, on manque un certain profondeur.
Surtout il manque des nouveautés, parce que ce qui est bien d'être dans les autres sections, à part évidemment Bellocchio qui est un vétéran, et même Virzi qui a déjà fait ses preuves, enfin qui en est à son 10e, 12e film, mais les autres ce sont des jeunes, donc c'est bien de savoir qu'il y a du renouveau.
Oui, c'est ça. Alors, donc, il y a David Mackenzie qui est en certain regard, mais c'est avec un film américain.
Et en plus, il est écossais, donc ça ne fera pas le compte.
Mais le film est très bon, hein, quand même. Le film est très, très bon.
Oui, il est fort.
Puis le film est très texan.
Bon, alors il y a aussi un film espagnol, donc qui sort demain en salle en France. C'est le premier film à notre programme ce soir, Julieta de Pedro Almodovar, de retour à Cannes 5 ans après La Piel que Habito, pour son 6e film, moins que Ken Loach, mais quand même 6e film présenté à Cannes.
Julieta?
¿Julieta?
¡Madre mía!
¡Qué sorpresa!
Hace justo una semana me encontré con tu hija en el lago Como.
¿Te encontraste con Antía?
Sí, imagínate. Nos quedamos mirando y fui yo quien la abordó porque ella no me reconocía. Tú, sin embargo, estás igual, Julieta. Mejor incluso.
¿Y qué te dijo?
Que había bajado a la ciudad a comprarle cosas a sus hijos. ¿Que tiene 3? ¿2 chicos y una chica?
Sí, no sé cómo se las arregla. ¿Tú tienes hijos?
No, no. Ni siquiera me he casado. Es una lástima, pero tengo mucha prisa. De verdad, no sabes cuánto me alegro de verte también, Julieta.
¿Dónde vives?
En Milán y Nueva York. Soy editora de complementos de Vogue. Viajo mucho. Al lago Como fui a hacer una sesión de fotos.
Qué bien. Bueno, oye, saluda a tu madre.
Les hispanophones l'auront compris, on est dans une rue de Madrid. Julieta croise une amie d'enfance de sa fille, Antia, qui lui donne de ses nouvelles. Julieta ne l'a pas vue depuis des années, et alors qu'elle s'apprêtait à quitter définitivement la capitale espagnole, elle décide de rester dans l'espoir d'enfin la retrouver. En attendant, elle prend son crayon, elle prend son petit journal et elle raconte par écrit à sa fille et aux spectateurs en même temps son histoire. On est en territoire connu, l'auteur de Tout sur ma mère aime se pencher sur la maternité. Il y a comme toujours beaucoup de couleur rouge. Le film s'ouvre sur un morceau de tissu rouge qui pulse là comme un cœur blessé. Il y a toujours des œuvres d'art sorties de la collection de Pedro Almodovar pour ce drame intime sur la culpabilité, sa transmission qui lorgne beaucoup sur Hitchcock. Il y a des scènes de train qui rappellent la période de L'Inconnu du Nord Express ou celle de La Mort aux Trousses. Il y a aussi une gouvernante très Rebecca, jouée par une des actrices fétiches d'Almodovar, Rossi de Palma, avec une très amusante perruque frisée sur une partition très film noir d'Alberto Iglesias. Julieta est jouée selon les âges par deux actrices, Emma Suarez, dont les cinéphiles amateurs de cinéma espagnol se rappellent avec émotion dans les premiers films de Julio Medem, Bacas et L'Écureuil Rouge, et puis Adriana Ugarte, qui est elle une vedette des feuilletons de la télévision espagnole. L'intrigue enfin est inspirée de trois nouvelles de l'écrivaine canadienne Alice Munro, Hasard, Bientôt et Silence, trois nouvelles qui figurent dans le recueil Fugitive, un livre que les plus observateurs des Almodovarophiles auront déjà vu figurer parmi les accessoires de la pièce qu'est Habito. Pedro Almodovar remportera-t-il enfin la Palme d'Or dont il rêve depuis longtemps avec ce Julieta, Jason Solomons?
Sans doute c'est un maître, sans doute il mérite un de ces jours une palme, mais je ne sais pas si c'est cette année. Heureusement, je trouve le film est vachement mieux qu'il a fait. Peut-être le mieux depuis Volver, peut-être le mieux depuis Ablé Corneille. Hein.
Parce que là, parle avec elle en français.
Parle avec elle, oui, bien sûr.
Je vous en prie, je suis là pour ça.
Talk to her en anglais. Là, j'ai trouvé beaucoup d'émotions, beaucoup de mélodrames, beaucoup des thèmes typiques almodovariens. Mais là, avec un peu de mélancolie, qui pour moi c'était un peu nouveau pour lui, donc j'ai adoré ça. À la fin j'ai été en larmes, et avec Almodovar des fois je sais pas, en larmes, je suis énervé, je suis évanoui, mais là j'étais en larmes. Il y avait vraiment une tristesse là à la fin, une tristesse d'une tragédie entre une mère et une fille qui n'ont pas parlé pendant 12 ans, vraiment une perte de temps, et c'était ça la tragédie, c'était une absence, c'était un film sur l'absence. Et un peu en fait il y avait au cœur de ce film, quand vous dites au début, c'était un cœur qui saigne en fait. Et c'était un film sur l'absence avec une absence au milieu. Et donc c'est un peu étrange ça, mais ça m'a laissé très très triste à la fin.
C'est un film assez triste, ça je suis d'accord avec vous, mais j'ai l'impression que Fabio Ferzetti, son cœur n'a pas saigné ni pleuré.
Non du tout, justement, je suis très jaloux des émotions de Jason, qui, bon vraiment, parce que surtout j'ai été très ému, enfin fortement ému par plusieurs films d'Almodovar. Presque tout. Même les derniers dont tout le monde disait du mal, je trouvais qu'ils étaient pas mal du tout. Même le tout dernier, celui qui se passe sur l'avion.
Dans l'avion.
Oui, je connais pas le titre français.
Moi-même, il m'échappe. Hein.
Qui est un film mineur, c'est même pas. C'était toujours de la. Là, j'avais une sensation de répétition, de auto-parodie presque. Enfin, alors c'est peut-être moi qui suis fatigué au 8e jour de festival. Tout est possible, mais vraiment, non, moi, ça m'a laissé complètement indifférent, c'est même inquiétant. Parce que ou bien je deviens un cœur de pierre, ou c'est Almodovar qui a raté quelque chose.
Est-ce que vous pouvez préciser où vous voyez la répétition, justement?
Partout, les décors, les couleurs, le temps. C'est vrai qu'il renonce à ces temps les plus criards, disons, dans les jeux des acteurs, dans le choix des comédiens, mais puis il ne remplace pas ça par quelque chose d'équivalent. Et donc j'ai l'impression de voir, je suis sûr que je n'ai pas lu les contes d'Alice Munro.
Moi non plus.
Je sais que c'est une grande écrivaine et je suis sûr que c'est très émouvant. Alors que là, tout est froid et je ne sais pas, un peu mécanique. Je n'arrive pas à ressentir la douleur pour cette. Pourtant, j'ai une fille.
Je comprends ça parce que
je suis très sensible à ce thème au cinéma. Oui. Hein, père, enfant, enfin, j'ai chialé comme c'est pas possible pour la famille Bélier. Nettement plus facile. J'étais étonné. Mais alors là, vraiment.
Et c'était à cause de cette absence, peut-être, parce qu'il y a quelque chose qui...
On ne sent pas la maternité, oui. il n'y a pas de vrai rapport entre cette mère et cette fille.
Parce que moi, je trouvais que c'était très, très intéressant, parce qu'il fait, il monte là un film sur l'absence, sur quelque chose qui manque, et en fait, il y a la fille qui manque. Et donc, ça aurait été plus facile de montrer la fille, d'avoir une correspondance avec la fille qui était là, et explorer un petit peu plus pourquoi la fille est partie. Mais il se tait sur les lendemains, là. Et donc, j'aime bien ça. Et ça m'a rendu très, très triste. Parce que peut-être on ne va jamais savoir. C'était un mystère dont on ne va jamais trouver la résolution.
Excusez-moi. Je suis toujours gêné par les films qui jettent une énorme pierre sur le plat, si, pour ainsi dire, et qui ensuite s'en occupe pas. Alors là, il y a une fille qui part, qui se fait faire du lessivage
de cerveau.
Par une sorte de secte. De fanatique.
Ouais.
Bon, on n'est pas obligé d'aller dans cette direction, mais l'ignorer complètement, enfin, c'est un peu trop, parce que c'est un énorme sujet.
C'est un énorme MAGAFIN, peut-être.
Mais oui. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment, tous les deux, que c'est d'ailleurs ce que dit aussi Pedro Almodovar, en voulant faire du drame plutôt que du mélodrame, qui était plutôt sa personnalité, sa spécialité précédemment. La musique est très différente aussi, on n'est pas dans la musique qui nous emporte, mais dans une musique justement très dramatique, qui donne l'impression que des choses atroces de films noirs vont arriver, alors que finalement, il ne se passe quand même pas grand-chose. En mettant la pédale douce, comme ça, dans ses effets, est-ce qu'Almodovar ne s'est pas justement un peu tiré une balle dans le pied, échouant à provoquer l'émotion chez Fabio Ferzetti, et je dois l'avouer, chez moi également.
Vous étiez...
Jason Solomons.
Pas émoué.
Non, je regardais ça se dérouler avec un ennui poli, on dira.
Voilà, tout à fait.
Donc, c'est moi le latin, c'était ça aujourd'hui. Non, j'ai trouvé parce que, avec la mélancolie que j'ai dit à la fin, avec Almodovar, il y a le mélodrame, ou des fois, il y a vous voyez, c'est les hystéries. Et là, il y avait une manque de ça. Donc, j'ai trouvé peut-être un pas en avance pour lui, maintenant qu'il a quel âge maintenant? 66, je crois, comme ça.
Oui, facilement.
Donc, j'ai trouvé un peu en avance, pas sur le plan technique, mais le plan émotionnel, là. Ça, vraiment, il m'a eu, là. Et en plus, il y avait un personnage qui dit « Oh, je me sens comme un personnage dans un roman de Patricia Highsmith ». Et donc, c'est très, très les références sont très intérieures là-dedans. Et moi, j'ai trouvé ça c'était drôle et intelligent, quoi. Pour Almodovar, c'était plutôt très, comment dire en français, c'était très contrôlé pour lui.
La moitié du film, c'est le spectateur qui le fait. Donc, vous êtes un meilleur spectateur de Almodovar que moi, sûrement. Là, j'étais paresseux, donc je ne me suis pas laissé.
Jason Solomon s'est crédité comme co-scénariste du film. Voilà. D'ailleurs, si vous regardez bien, on va parler tout à l'heure dans la revue de presse de la question de la place des femmes au cinéma. La place des hommes dans ce film est très étrange. Ils sont quand même très rapidement esquissés, évacués quasiment
aussitôt. Ils sont un peu ridicules, non ?
Fabio Ferzetti.
Ils sont presque ridicules. Enfin, ce pêcheur grand amant qui se manifeste qu'on sait la nuit dans le train, précédé par l'apparition d'un cerf avec des immenses cornes qui cherche la femelle. Enfin, c'est presque rigolo, mais ce n'est pas très émouvant. C'est pas...
Oui, c'est rigolo. Almodovar, il est toujours rigolo. Hein.
Oui, mais je ne vois pas où il veut en venir. Enfin, j'étais tout le temps dérouté par son film. Mais bon. C'est dommage, parce que c'est quelqu'un que j'adore. Hein,
oui, mais moi, il y avait l'histoire de le père qui, avec la mère qui est, je sais pas, elle est malade, elle est au lit, et lui, la bonne marocaine avec qui il a maintenant un gosse. Et donc, un peu, là, ça c'est en Andalousie, et puis il rentre au nord, je sais pas où c'est ça.
Cadiz, je crois.
Cadiz, c'était l'autre.
Je crois. Hein.
Ok.
En Galice, c'est sûr.
Moi, j'ai vu en Galice, là où il y a les Albarino.
Vu d'Angleterre. C'est un peu la même chose.
Oui, il y a la pluie. Là, je me suis plus
c'est
confortable au nord.
Ouais.
Oui. Là, j'ai trouvé bien les couleurs qui sont contrastées, le type d'homme là qui en fait qui est constant. Et il y a les deux femmes là qui jouent le même rôle. Il y a Emma Suarez qui la joue âgée, moyen âgée.
Ah bah les grand-mères quand même dans le film.
Oui, sans le savoir. Hein. Et Adriana comment ça s'appelle?
Adriana Ugarte.
Ugarte. Qui
n'est pas ce qu'il y a de meilleur dans le film, il me semble. Mais effectivement, il y a une belle idée de cinéma pour moi. C'est ce passage, justement, quasiment dans le même plan, d'une comédienne à l'autre, par le moyen d'un séchage de cheveux. Oui. Ça, c'est une très belle idée de cinéma, je trouve. Quoi qu'il en soit, Julieta de Pedro Almodovar, tous nos auditeurs pourront s'en faire leur idée, puisqu'il sort demain sur tous les écrans français.
France Culture, La Dispute, à Cannes, Antoine Guillot.
Dans une vingtaine de minutes, on va parler d'un film français, le controversé Maloute de Bruno Dumont, disputé en tout cas un peu partout dans Cannes. Un film sorti en salle vendredi dernier, le jour de sa présentation en compétition. Il y a un téléphone qui vibre quelque part. Avant cela, nous aurons retrouvé l'invité de la dispute, le chanteur libanais Bachar Mar-Khalife, et évoqué deux coups de cœur canois de nos critiques européens, Tony Erdmann de Marenade et Neruda de Pablo Larraín. En attendant, c'est l'heure de retrouver Émilie Chaudet qui surveille de très près depuis Paris ce qui se passe à Cannes pour sa revue de presse culturelle.
Bonsoir Antoine et bonsoir à tous. Vous avez peut-être remarqué cet article de L'Express sur Pedro Almodovar et ses actrices et qui s'intitule « L'homme qui filmait les femmes ». Avec tout le respect que l'on doit avoir pour le contenu de cet article, il y a tout de même une impression de déjà-vu rien qu'en lisant le titre. D'ailleurs, il y a tout juste 10 ans, le même magazine publiait cet article intitulé « Pedro Almodovar, l'homme qui aimait les femmes ». C'était à l'occasion de la présentation du film « Volver » à Cannes et force est de constater que l'on peut retrouver toute une collection d'articles du même genre suivant les années. Je ne vais pas vous en étaler la liste, mais entre les fétiches, les muses, le bal des actrices, les chicas, on ne compte plus les articles à angle unique sur le cinéma et l'univers du réalisateur espagnol à chaque fois donc qu'il présente un film à Cannes, ou même à chaque fois d'ailleurs qu'il sort un nouveau film. Et si l'on prend un peu de recul, on s'aperçoit que chaque année, la presse ressort les mêmes titres, amusés ou désabusés, c'est selon, sur la place des femmes à Cannes. Cet article de L'Obs, par exemple, signé Nicolas Chaleur, est intitulé « Le bal des actrices, les favorites, les reines, les débutantes ». Une petite série de portraits comme celui de Golshifteh Farahani, de Sonia Braga ou d'Adriana Ugarte, l'héroïne de Julieta de Pedro Almodovar, qui confie venir à Cannes pour la première fois en tant qu'actrice. La fois d'avant, elle était venue en tant qu'égérie espagnole de la marque de crème glacée Magnum. Cette année, dit-elle, ce sera ma vraie première fois. Un progrès donc dans les parcours, mais quel progrès pour les réalisatrices. Comme le souligne Nicolas Chaleur de L'Obs, les actrices tiennent certes le premier rôle, mais il y a toujours aussi peu de réalisatrices en sélection officielle, 3 cette année. Un constat qui est valable tout au long de l'année. D'ailleurs, le Parisien, juste avant le Festival de Cannes, publiait le résultat d'une étude menée par le réseau européen des professionnels au féminin de l'audiovisuel, étude qui révèle que seulement 1 film sur 5 est le produit d'une réalisatrice en Europe. La journaliste du New York Times, Rachel Donadio, elle se montre un peu moins inquiète que ses confrères français. Certes, il n'y a que 3 réalisatrices en sélection officielle, mais des réalisatrices dont les films, pour elle, se situent en haut du panier, que ce soit celui de la Britannique Andrea Arnolds avec son film American Honey, de la Française Nicole Garcia avec Le Mal de Pierre, ou de celui de l'Allemande Marenade avec Tony Erdmann. Et la journaliste constate que même si la sélection n'arrive toujours pas à honorer une certaine parité, comme c'est le cas dans toute l'industrie du cinéma, il y a cette année plus de discussions et de débats autour de ce thème. Elle rappelle à ce titre les mots du président Pierre Lescure qui imagine une femme lui succéder à l'avenir. Même si elle n'est pas aussi présente qu'on pourrait le souhaiter, donc la femme, selon la journaliste, devient peu à peu visible à Cannes et au cinéma. Oui, mais quelle femme ! Isabelle Lesniak, dans le supplément hebdomadaire des Échos, nous parle de ces bonnes fées du cinéma français. Il s'agit du portrait chiffré d'une dizaine de femmes sans qui, selon les mots de la journaliste, la plupart des 300 films produits en France n'auraient sans doute pas vu le jour. Et cela va de la directrice du CNC, Frédéric Bredin, à la productrice Sylvie Piala, en passant par Régine Vial, la responsable distribution au film du Losange, ou Anne-Dominique Toussaint, la fondatrice des films des Tournelles. On y découvre aussi des noms moins connus du grand public, Anne Flamand, directrice des activités cinéma et audiovisuelles de la banque Neuflis OBC, lâche qu'elle accorde un crédit non pas par coup de cœur pour le film, mais à la suite d'une analyse de risque. Quel risque ? On n'en saura pas beaucoup plus dans cet article, mais dans ce domaine, quelques actrices sont décidées à ne plus rester silencieuses dans le domaine des risques. Après la polémique sur les Oscars trop blancs, et si on balayait devant notre porte, écrivent Clarence Edgar Rosa et Mélodie Thomas dans le magazine Cosette, les deux journalistes partis à la rencontre de ces actrices qui, selon leurs mots, subissent la double peine, femme et noire, qui les rend presque invisibles. Fin de citation. Parmi elles, la comédienne Yasmine Modestine, qui vient de se voir refuser un rôle de commissaire supérieur hiérarchique d'un policier dont le rôle va être interprété par Gérard Depardieu dans le prochain film d'Éric Zonka. L'agent de la jeune femme s'est vu répondre qu'une noire ou une métisse dans ce rôle, ça ferait, je cite, trop cliché de discrimination positive. Dans un siècle, ce qui restera de nous, dit-elle, ce sont ces images qui nous représentent plus souvent comme des dealers et des femmes de ménage que comme nous sommes dans la réalité. C'est ce que déplore donc la comédienne Cohen, des mots qui font écho à ceux de Lubna Abidar, une actrice qui ne compte pas pour le coup rester invisible, même loin de Cannes, l'actrice marocaine violemment agressée et rouée de coups dans son pays pour le rôle de prostituée qu'elle a interprété dans le film Much Loved, présenté à Cannes l'année dernière. Elle revient donc, cette actrice, avec un livre, La Dangereuse, coécrit avec la grande reporter du Monde, Marion Van Rentergem. Interviewée par Michel Schneider du Point, la comédienne qui a quitté son pays confie « J'ai été plongée dans un enfer à cause du manque d'éducation. La formation aux idées et aux arts aurait permis de faire la différence entre la fiction et la réalité, entre l'actrice et le personnage. Mais l'art, ça fait peur à la politique. » Lubna Abidar, qui compte réaliser 2 projets de films en France et en Belgique, c'est donc encore loin de Cannes que les voix féminines les plus fortes se font entendre, on dirait. En écho aux mots de la journaliste du Monde, Florence Aubenas, qui écrit dans l'un de ses billets Red Carpet, Cannes est à quelques heures de Paris ou de New York, mais le festival vient de décoller dans sa propre bulle où plus rien ne compte que lui-même.
Merci Émilie Chaudet. Quelques commentaires de nos critiques européens. Est-ce que cette question, notamment de la place des femmes dans le cinéma, dans vos filmographies respectives, se pose, ce débat, Jason Solomon?
Bon, le cinéma britannique est obsédé par cette question en ce moment. En fait, le BFI, l'Institut de film britannique, a déclaré que ça serait 50-50. On va faire 50-50. Directors UK, une organisation qui gère sur les directeurs, va dire ça va être 50-50, au moins 50-50. On est obsédé. Moi, je dis handicapé par ça, par cette question. Parce que c'est une question, est-ce qu'on va avoir la solution? Je doute. Est-ce qu'il y a assez de metteurs en scène féminins pour arriver à ce niveau? Parce qu'il faut qu'ils soient capables de monter un film. C'est facile de dire l'année prochaine on va faire monter une quarantaine de films avec des metteurs en scène femelles. Mais si on n'a pas, vous pouvez pas. Donc c'est un peu une question. Moi je suis tout à fait pour, bien sûr, mais seulement s'il y a le talent.
Et Fabio Ferzetti, vous avez de belles réalisatrices féminines comme Alice Rohrwacher.
Voilà, qu'on a découvert à Cannes justement. On a découvert 2 fois avec son premier et son deuxième film, mais toujours à Cannes. Oui, moi, je déteste entendre parler de quotas ou de. Enfin, ça n'est pas la manière de résoudre le problème, sauf si la situation est vraiment tellement grave ou alors il faut imposer. Mais bon. Comme justement il faut du talent, il faut être motivé, il faut avoir envie, il faut avoir des idées, etc. Non, on ne peut pas dire, bon, on embauche tant d'employés hommes et tant d'employés femmes. Oui, mais pour être réalisatrice, scénariste... Non, ce qui est vrai, par contre, c'est qu'on voit très bien, on peut évaluer, disons, le degré de civilisation d'un pays ou d'une culture en voyant que, par exemple, en Italie, c'est encore aujourd'hui rare, et même très rare, de voir des chefs-op femmes. Oui. Alors qu'en France, on en voit depuis longtemps. C'est parce que les femmes en France, je crois que ça se passe mieux que partout ailleurs en Europe. Enfin, la situation de la femme française est évidemment meilleure. Enfin, il suffit de regarder votre gouvernement. Enfin, c'est un peu plus... Enfin, les choses ont évolué un peu plus chez vous. Ça, oui. Mais d'ici à imposer... Évidemment, il faut tout faire pour favoriser. Mais je crois qu'on fait déjà beaucoup pour favoriser ça. Et attention à ne pas créer des ghettos à l'inverse.
Même question concernant la visibilité des minorités à l'écran. Maintenant que Londres a un maire d'origine pakistanaise, alors j'imagine que la question ne se pose pas exactement pareil pour des raisons de passé colonial simplement en Italie, mais en Angleterre, ces questions-là
aussi.
Oui,
ça nous obsède aussi.
Tout autant.
Tout autant, on est obsédé. Hein. Bon, mais vraiment, parce que ces 2 questions, pour les minorités, pour les femmes. Et qu'est-ce qu'on peut dire? Je ne suis pas contre, mais il faut avoir les scénaristes qui savent créer les personnages, bien créer les personnages. Il faut avoir des scénaristes peut-être qui viennent d'une minorité comme ça. Et donc, bon, peut-être qu'après une génération, il va y avoir des écrivains qui viennent de cette culture. Mais moi, je trouve que les producteurs...
Il y en a eu quand même dans les premiers films de Stephen Frears, etc.
On a toujours été très multiculturel à l'écran, à mon avis. Mais il y a les jeunes acteurs qui sont des stars maintenant en Angleterre. C'est c'est Benedict Cumberbatch, c'est Tommy Hiddleston, ils viennent tous de Eton et de Oxford. Il n'y a pas vraiment casting de les rues. Et donc, c'est ça qu'il faut changer un peu.
Bon, je crains, comme dit Émilie Chaudet, que ce soit un marronnier et qu'on en reparle encore ici l'an prochain. À Cannes, retour au film présenté à Cannes en compétition. Il y en a un qui remporte tous les suffrages des critiques dans les tableaux d'étoiles publiés quotidiennement par les magazines professionnels comme Screen, qui lui décerne la note faramineuse, note moyenne de 3,8 sur 4. Il a provoqué des applaudissements au milieu du film, des fous rires généralisés complètement incontrôlables. Tout le monde lui promet donc d'ores et déjà la Palme d'Or. C'est Tony Erdmann de l'allemande Maren AD et c'est votre coup de cœur, Fabio Ferzetti.
Absolument. Bah, c'était, je ne peux pas dire une grande surprise. J'avais une grande attente pour ce film parce que j'avais vu le film précédent. Je n'ai pas tout vu, mais je gardais un excellent souvenir de Alejandre de Maren AD qu'on avait découvert
sous le titre
Berlin.
Bien français de Anyone Else, c'est comme ça qu'il est sorti en France.
Ah bon, ah vous faites ça aussi. Et oui. C'est une spécialité italienne.
Non, c'est plus vendeur en France pour un film étranger de mettre un titre anglais.
Le monde d'autres, non.
Ça se fait depuis longtemps en Italie, mais je pensais qu'il y avait que nous pour faire ça.
Non, pourtant il y a des lois contre. Mais... Oh, oui. Oui, alors pardon, je vous ai coupé, il fallait le faire.
Non, bah donc je m'attendais, mais je m'attendais pas à ça. Le film est surprenant du début à la fin. J'ai adhéré immédiatement, je me suis laissé aller. Enfin, alors ce qui est bizarre, par contre, c'est que
vous nous dites deux mots de l'histoire quand même.
Pardon.
Vous nous dites deux mots de l'histoire que raconte ce film.
Oui, bah c'est un père qui essaye de, disons, de reconquérir sa fille ou peut-être de lui ouvrir les yeux et de mettre, disons, son savoir d'ancien radical des années 70. Ce n'est pas dit dans le film, mais on devine qu'il a ce background derrière lui, excusez-moi le mot anglais, et alors que sa fille fait une carrière de manager dans une société qui doit... elle travaille à Bucarest, enfin, pour une société américaine qui, évidemment...
qui restructure les mines, voilà. Pour licencier le personnel. Quoi.
Voilà. Donc, disons, elle ne fait pas un travail super propre, et surtout, elle est complètement intégrée dans un système de vie et de valeurs qui font grincer les dents à son père et, je crois, à tous les spectateurs qui étaient ici à Cannes, mais qui sont largement, par contre, diffusés dans le monde. Enfin, c'est une mentalité très dominante aujourd'hui, donc c'est très bien que le film trouve ce moyen bizarre, parce que qu'est-ce qu'il fait, le père? Il revient une première fois sous les traits de son père, donc enfin, c'est son père qui va la trouver à Bucarest sans prévenir et qui fout le bordel. Je ne trouve pas d'autres exceptions. Enfin,
le dire, il sème un certain désordre,
voilà,
dans la vie de sa fille.
Désordre, voilà. Tout à fait.
Vous avez droit au beau bordel, hein, mais n'abusez pas.
Excusez-moi, mon français remonte à mes années d'étudiant. Et comme ça se passe très mal et que sa fille le vire carrément, et on peut la comprendre quelque part, pas vraiment puisqu'on est tout le temps du côté de son père, mais elle a ses raisons. Et donc il revient déguisé en Tony Erdmann. Qui est Tony Erdmann? Bon, c'est une espèce de fool shakespearien, c'est un personnage loufoque qui a une grande perruque, qui a des dents fausses, auquel est tout permis, qui est tellement drôle et bidon, vraiment les gens lui permettent d'exercer une influence bizarre. Enfin, il se présente partout où il ne devrait pas être, il se présente comme le coach du président pour lequel travaille sa fille. Enfin, là aussi, il sème l'embarras, mais il arrive justement, il obtient des résultats très très forts au niveau, comment dirais-je, social et psychologique chez sa fille, ce qui est le plus important.
Ouais, c'est un film étonnant parce qu'il est très long, il dure quasiment 3 heures, mais la fantaisie, la loufoquerie monte en puissance au fur et à mesure, et c'est vrai qu'à un moment, on ne peut plus s'arrêter de rire et d'être ému en même temps, c'est très curieux.
Il y a un signe très clair pour tous les critiques, c'est quand on a du mal à raconter un film, c'est-à-dire que ça veut dire toujours que le film est nouveau, parce que si on le met à un mot, ça ressemble à autre chose. Alors on dirait un film avec Robin Williams qui fait le pit, c'est pas du tout ça.
Voilà, un film irréductible, Tony Erdmann, qui sortira en France le 17 août. Un peu de patience, et puis on lui souhaite vraiment bonne chance pour le palmarès dimanche. Jason Solomons, en tant qu'auteur de l'album Woody Allen, film par film, publié en France par Gallimard, très beau livre. On imagine que votre film préféré, c'était Café Society, le film qui a ouvert les réjouissances cannoises, mais dommage, on en a déjà parlé ici, mercredi dernier. Vous avez tout de même pensé beaucoup de bien du Neruda de Pablo Larraín, le réalisateur chilien d'El Club et de No, un film présenté lui à la quinzaine des réalisateurs.
Oui, c'était l'année dernière, il y avait un peu de controversie parce que le film de Despechin n'était pas en compétition, mais sa ouverture de quinzaine. Et cette fois-ci, on a un film qui aurait pu être en compétition, mais a trouvé une très belle ouverture de quinzaine, qui s'appelle Neruda de Pablo Larraine. Et c'était un film très très ludique. C'était un film, comme dit Larraine lui-même, néroudien. Donc, vous avez Neruda lui-même, le poète, en 1948, donc qui prend un exil en Chili, juste avant d'essayer de s'échapper à travers les Andes.
Il est joué par Gael García Bernal.
Il est joué par Luis Gnecco, que j'ai vu jouer dans quelques films de Lorraine. Il est très connu en Chili, apparemment à la télé. Et il joue Neruda avec. Et c'est intéressant parce que c'est un héros. Mais avec des traits détestables. C'est pas un saint, lui. Mais le gouvernement, il met en chasse le bon inspecteur Pelluchono, qui a une petite moustache jouée par Gael García Bernal, qui est sans doute un peu clouseau, parce qu'il c'est un peu un idiot. Sa tâche est de chasser, un peu, de trouver où il se trouve ce Neruda. Et le Neruda, il nous laisse des romans policiers, chaque fois que Pelluchino il arrive, Neruda a disparu. Et donc, ça devient un petit jeu de chat et souris. Donc le souris, peut-être il n'existe pas. Donc c'est très très ludique, c'est très très comique, mais c'est aussi très très sérieux. Et ça a lieu sur des plans un peu, ça m'a fait penser un petit peu au La vie en rose de comment il s'appelle, Olivier, avec Marion Cotillard.
Olivier
Daron.
Donc,
essayer de trouver une référence plus excitante.
Non, c'était bien ce film.
Sur le plan technique, donc il y a le Sénat chilien a lieu dans une énorme salle de bain, par exemple. Et donc c'est un peu comme ça. Et donc moi j'ai trouvé très 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 intéressant ce film, très très drôle, et en fait ça restait avec moi tout le festival.
Alors La vie en rose ou La panthère rose version Pablo Larraine, Neruda n'a pas encore de date de sortie en France, ça ne saurait tarder à mon avis. Vous pourrez toutefois le découvrir dans les reprises de la quinzaine des réalisateurs qui ont lieu après Cannes, notamment le 2 juin au Forum des Images à Paris, ou le 25 mai et le 4 juin à l'Alhambra à Marseille, ou encore quelque part entre le 1er et le 3 juillet à la Cinémathèque à Bruxelles. Avant d'aborder l'étrange Maloute de Bruno Dumont, que beaucoup d'entre vous ont sans doute déjà vu, puisqu'il est sorti vendredi dernier en salle, c'est le moment de retrouver notre invité de la semaine, le chanteur, compositeur et multi-instrumentiste libanais Bachar Mar Khalife, dont vous saurez tout en vous rendant sur le site franceculture.fr à la page de l'invité de la dispute. Bachar Mar Khalife, interrogé par Arnaud Laporte sur ses goûts en matière d'images mouvantes.
Comment allez-vous? Très bien, merci. Et vous?
Bachar Mar Khalife, on parle de cinéma aujourd'hui. Alors, on a parlé de spectacle hier. Voilà, un monde que vous connaissez bien. Le cinéma aussi, hein, il y a eu des musiques de films. C'est quoi comme genre de travail, de travailler enfin, j'imagine qu'à chaque fois, c'est différent, parce que chaque projet est différent. Mais comment vous avez abordé l'écriture de musique de film?
Ben déjà, c'est un travail très très différent de l'enregistrement d'un album personnel. C'est un travail collaboratif, donc il y a beaucoup de paramètres nouveaux qui étaient pour moi inconnus, c'est-à-dire qu'il fallait déjà préparer en amont, discuter avec beaucoup de gens, non seulement le réalisateur, mais aussi parfois les producteurs, les mixeurs son, etc. Donc c'était pas quelque chose d'évident. Je crois que c'est un métier à part, compositeur de musique de film. Je crois que ça existe et que c'est pas pour rien qu'il y a des gens qui ne font que ça. Moi, ça a été des collaborations choisies. Ces réalisateurs-là, j'ai eu la chance qu'ils viennent me chercher parce qu'ils avaient envie d'échanger de mélanger nos univers. Je pense à Hicham Ayouch pour son film Fièvre. Je pense à Daniel Harbid pour Peur de rien, Jehan Shoaib pour Go Home, etc. Et c'était à chaque fois une remise en question assez forte pour moi, de laisser aussi un petit peu ma liberté totale et acharnée de côté, et d'essayer de trouver une liberté totale et acharnée, mais à plusieurs, ce qui n'est pas chose évidente.
Et comme spectateur, est-ce que vous êtes cinéphile? Est-ce que le cinéma, ça compte dans votre vie?
Ça compte énormément. Encore faut-il aussi, encore une fois, avoir le temps de, d'y aller. J'y vais vraiment à l'occasion, quand je suis en journée off, comme on dit, à Paris, quand je me promène et que je passe devant un cinéma. Parfois, je n'ai pas prévu d'y aller, mais j'y vais. Mais bon, le cinéma se transporte à la maison aussi, aujourd'hui, beaucoup. Et je crois qu'il y a un cinéma dont j'ai vraiment envie de parler aujourd'hui, c'est le cinéma italien qui me marque depuis quelques années, des années 70. J'ai envie de parler du film Prova di Orchestra de Fellini, qui est un film que j'ai vu il y a peut-être une dizaine ou une quinzaine d'années, qui m'avait marqué déjà par la folie de la forme, qui n'est pas du tout une forme conventionnelle du film, entre le documentaire, le faux documentaire. Donc ça questionne aussi la place du cinéma ou la place de la télévision. Évidemment, la place des musiciens d'orchestre qui m'intéressent beaucoup, cette réalité-là de ces musiciens qui finalement exécutent une œuvre et sont menés à la baguette par un chef tyrannique. C'est une très très belle métaphore, je trouve, de la société en général, surtout de la société d'aujourd'hui, et c'est cette envie de liberté tout d'un coup de se dire que qu'un violoniste a envie d'improviser quelque chose en pleine en pleine symphonie, que voilà. Puis c'est un cinéma fou. Bon, je pense aussi à Pasolini, à Visconti, etc., Antonioni. Je crois que c'est un cinéma qui a apporté beaucoup de liberté et qui a surtout soulevé beaucoup de questions et de débats. Et je crois que c'est l'importance de l'art en général, c'est de soulever des débats dans la société.
Alors des débats qui passent chez ces cinéastes-là par aussi le fait d'éclater des formes. C'est vrai que il y a du fond, mais ils trouvent la forme chacun très différente de ceux que vous avez cités pour dynamiter un peu les choses. C'est aussi je comprends bien en quoi ça vous parle, Bachar Mahan, il fait, parce que voilà, il y a la connaissance de son art et puis c'est pour pousser les murs ou les détruire, comme dans Prova di Orchestra. Je me rappelle de cette image
de la boule,
démolition, de la boule qui
démolit les murs.
Qui démolit les murs.
Je crois que c'est un cinéma extrêmement moderne et que malheureusement, je pense que le mouvement de l'histoire ou le mouvement de la culture est un peu en recul par rapport à ça. On est de moins en moins courageux, je trouve. Et je reviens un peu sur le spectacle qu'on a créé, qui s'appelait Le Paradis du Elki, où on a eu du mal à trouver quand même des soutiens par rapport à ça, puisque c'était ni un concert de musique, ni un spectacle, ni une pièce de théâtre. Et donc, difficile de mettre dans une case, et je pense que ça fait peur à beaucoup de programmateurs, par exemple.
Ça fait pas peur aux Bouffes du Nord, on le sait, voilà. Et ils font un travail formidable à ce niveau-là. Bah oui, notamment, mais c'est vrai.
C'est vrai, c'est un théâtre en plus qui est, je crois, magnifique. On est plongé, c'est un peu la sensation comme quand on va dans une église où on est complètement tout d'un coup détaché de la rue de laquelle on vient et on est transporté ailleurs instantanément et on a envie de marquer les sons, enfin les murs de ce théâtre par les sons et par ses pas. On a envie de marquer ce théâtre.
Retour au Palais des Festivals pour cette dispute cinéma consacrée à la 69e édition du Festival de Cannes. Deuxième film à notre programme ce soir, le nouveau film de Bruno Dumont, le très loufoque, mais pas seulement Malout.
Quel bonheur à chaque fois de retourner sur cette côte! Mais regardez là-bas, ces cueilleurs de moules!
Qu'est-ce que c'est, cette carrière?
Oh, comme c'est pittoresque!
La glycine! Elle a pris 2 mètres!
Tout pousse, André!
tout pousse.
Et mon petit frère, comment va-t-il?
Jamais je ne m'habituerai à la beauté de ce paysage, jamais.
Pourtant, vous venez tous les ans.
Et toi, tu t'appelles comment?
Maloute.
Maloute. Qu'est-ce à dire, Maloute?
Je sais pas, madame. C'est comme ça que je m'appelle.
C'est ici que cette personne aurait disparu, chef.
J'ai commencé à sortir aussi, là.
Bon, les personnes ont disparu dans la baie.
C'est terrifiant. Vous voudrez...
La prendre, enfin. Allons, la police est à pied d'œuvre, maintenant.
Viens. T'as trouvé quelqu'un? Toi, je comprends pas ce que tu t'es dit. À tour de l'eau.
C'est une affaire très mystérieuse. Sans cadavre.
Tu n'as pas peur de disparaître?
Tu nous protégerais. N'est-ce pas, Maloute?
Au liqueur, au liqueur!
Je comprends rien, là.
Des gens bizarres.
La doigt de Wissouki? Et on part!
Une lafomane, une nudiste, et des disparus.
Dans toute cette histoire, il y a une providence. Ceux qui sont sauvés, et les autres.
Maloute!
Et comme le disait papa, nous sommes des bons petits gamins là. Oui, à ce titre, arrive ce qui arrive.
On l'entend, le ton est à la farce pour ce retour de Bruno Dumont en compétition à Cannes après une grosse fâcherie avec le délégué général Thierry Frémaux. On a même cru un moment qu'ils en viendraient aux mains. Cannes qui lui a pour l'instant porté chance. Mention spéciale Caméra d'Or pour La Vie de Jésus en 1997. Grand prix du jury et double prix d'interprétation pour L'Humanité en 1999 grâce à la clairvoyance du président du jury d'alors, David Cronenberg. Grand prix pour Flandre en 2006. Et puis en 2014, c'était à la quinzaine des réalisateurs que sa série Petit Quinquin avait fait un triomphe, et c'est dans cette nouvelle veine comique, voire franchement burlesque, que Bruno Dumont inscrit ce nouveau film, Maloute, une farce grotesque qui voit s'affronter sur la côte d'Opale de l'été 1910 deux familles, des bourgeois lillois décadents, voire franchement dégénérés par abus de consanguinité, les Van Peteghem et les Bruford, des pêcheurs de moules aux mœurs étranges. On dira juste qu'ils ont comme une dent contre ces riches précurseurs de la villégiature littorale. Seul le fils de ces derniers, le maloute du titre, et la fille très endogène des bourgeois, la belle Oubo, allez savoir Billy, noue de tendres sentiments. Rajoutez à cela de mystérieuses disparitions, des inspecteurs à la Laurel et Hardy en costume de Dupont et Dupont, et vous aurez une petite idée de cette curieuse comédie policière et fantastique sur la lutte des classes, tournée dans la baie de la Slack, dont Bruno Dumont avait déjà puissamment filmé les dunes et marécages dans l'excellent Hors Satan. Je finis en précisant que les pêcheurs sont joués par des comédiens dit non professionnel, déniché par Bruno Dumont avec son sens du casting, et les bourgeois par des têtes d'affiche, puisque ce sont Fabrice Lucchini, Valeria Bruni-Tedeschi et Juliette Binoche. Fabio Ferzetti, comment avez-vous goûté l'exercice?
J'ai beaucoup aimé pendant, disons, la première moitié du film. Enfin, j'étais emballé, évidemment. Là, on vient de l'entendre. Ça passe très bien à la radio parce que c'est vraiment une explosion d'inventions de toutes sortes. Et visuellement, c'est aussi riche qu'au point de vue sonore. Donc, on peut, ceux qui ne l'auraient pas encore vu. Donc, tout ça est très beau, très fascinant. Mais je trouve que ça, je ne veux pas dire ça va nulle part. Mais enfin, les développements ne sont pas à la hauteur des promesses. Enfin, à un moment donné, ça commence un peu à tourner en rond. Et finalement, bon, ça vient où? Des familles dégénérées, on connaît. La lutte de classe, on connaît. Ce qui est très intéressant, c'est de reformuler complètement l'imaginaire de cette époque-là, qui est richissime, à la fois de par la peinture, la photo. Enfin, on a tous vu des milliers et des milliers d'images de cette époque-là. C'est la belle époque. Donc, on croit qu'on est bien. Là, il renverse vraiment la table. Enfin, il en fait tout autre chose. À la fois en travaillant sur les accents, les mouvements, la manière de la démarche, enfin, la manière même de bouger des comédiens. Donc, il fait quelque chose de très intéressant. Mais il va pas vraiment aboutir à quelque chose je trouve que ça, j'aurais aimé que ce soit un film d'un trois quarts d'heure.
Voilà. On va revenir vers vous, Fabio Ferzetti, pour creuser un peu les dunes et les marécages de ce film. Jason Solomons, vous avez séché Maloute, vous, pour aller voir Neruda, votre coup de cœur de tout à l'heure. Mais Arnaud Laporte, lui, l'a vu en salle à Paris et il est avec nous au téléphone. Votre sentiment, Arnaud, bonsoir, sur cet étrange film.
Bonsoir Antoine, bonsoir, je suis ravi d'être le Joker de Jason Solomons et je salue Fabio Ferzetti également. J'aurais bien aimé tenir trois quarts d'heure, mais pour moi c'est le naufrage est total. J'en suis vraiment pas vraiment surpris parce qu'on a vu beaucoup la bande-annonce pour peu qu'on aille en salle, ce qui est mon cas. Et j'avais un petit peu peur. Je précise que vous parliez tout à l'heure de la vie de Jésus, et quand j'avais découvert ce film en 97 à Cannes, j'avais eu qu'une envie, c'était de rencontrer Bruno Dumont, et donc il était venu tout de suite en parler à la radio. J'ai aimé tous ses films depuis. Moi, j'ai quelques réserves sur Hors Satan, et j'ai beaucoup aimé aussi Petit Quinquin, sa série pour Arte. Donc, j'y allais plutôt de bon cœur, mais c'était vraiment un désarroi, parce qu'il pousse là plus loin le curseur de Petit Quinquin, il le pousse vraiment dans le rouge, avec un systématisme des scènes qui s'étire sans nécessité, avec un surjeu de chaque instant, chaque protagoniste. Alors c'est évident qu'il vise la farce, qu'il vise le carnaval, qu'il vise le surréalisme, c'est la jonction du nord de la France et de la Belgique, la vraie terre du surréalisme drôle, mais il me semble que le système ici ne fait que montrer sa limite constamment, sans que, effectivement, on aille vraiment quelque part. Là où on va, ça ne m'intéresse pas beaucoup. On m'a beaucoup posé la question depuis que j'ai vu le film. Est-ce que Luchini fait du Luchini, ou est-ce que Juliette Binoche n'est pas insupportable? Je pense que le problème, c'est pas eux, c'est vraiment ce que leur demande Bruno Dumont. Et peut-être le plus étonnant pour moi, c'est que la plus sombre, et celle qui tire un peu son épingle du jeu, c'est Valéa Bruni Tedeschi.
Je suis assez d'accord avec vous,
Valéa. Qui a beau jouer une névrosée comme d'habitude, mais ici elle le fait vraiment avec une tenue très, très intéressante par rapport aux autres. Bon, jusqu'à un moment de béatitude, sur les raisons desquelles je ne m'étalerai pas parce qu'il faut garder les surprises, mais qui est loin de... d'Ordette de Dreyer, donner un indice.
C'est peut-être l'avantage du corset, effectivement, pour certaines comédiennes. Fabio Ferzetti.
Est-ce que vous avez vu le film de Paolo Virzì, qui est à la quinzaine, La Pazza Gioia, où elle joue aussi, parce qu'elle est dans un état de grâce totale en ce moment?
Ah, bah alors, c'est peut-être un bon moment pour Valéa Bruni Tedeschi, n'ayant pas vu le film dont vous parlez.
Alors, moi, je l'ai vu, disons que c'est pas exactement le même type de jeu. Là, le corset a complètement lâché chez Paolo Virzì, donc on peut voir, en tout cas, que c'est une comédienne qui a beaucoup d'étendue dans son jeu, Jason Solomon.
Je peux poser une question, parce que moi, comme Arnaud, là, j'ai vu les clips avant de sécher le film. J'ai vu les clips et j'ai dit...
C'est peut-être pas parce que vous avez vu les clips.
J'ai couru aux quinzaines. Est-ce que Dumont, il travaille certainement pas avec les stars, normalement. Est-ce qu'il a eu des problèmes à diriger les stars, enfin, à contenir les stars, ou enfin, à trouver un bilan avec Luchini, avec Binoche, les stars de si grand standing?
Arnaud Laporte
Il semble, bon, déjà il a dirigé Ginette Binoche dans Camille Claudel 1915, en tirant d'elle quelque chose que peu de metteurs en scène, cinéastes ont réussi à obtenir, et je trouvais vraiment qu'elle montrait quelque chose de très nouveau, ce qui n'était pas gagné. Il y avait d'ailleurs aussi Jean-Luc Vincent, qu'on voit ici, qui joue le beau-frère, le cousin, enfin, et que je trouve d'ailleurs assez remarquable, qui jouait Paul Claudel dans ce film précédent, qui est un comédien professionnel aussi. Non, je crois qu'il tire vraiment ce qu'il veut de ses comédiens et qu'il sait absolument les diriger. Je crois que Luchini répond absolument à la demande, tout comme Binoche, tout comme tous les professionnels. Je crois que le problème n'est pas là. Ils suivent leur directeur d'acteur, leur metteur en scène, mais ils le suivent dans un chemin qui me semble assez vain.
Moi, j'ai le sentiment quand même, pour essayer de sauver un peu des choses dans ce film pour lequel je suis assez d'accord avec vous, il y a quand même toujours, et c'est toujours étrange chez Bruno Dumont, au milieu de ces personnages qui incarnent soit le mal, soit la folie, il y a toujours ce couple de pureté, enfin, il y a toujours un ou deux personnages qui incarnent la pureté, et là, je trouve que par moment dans le film, les Malout et le personnage de Billy, l'histoire d'amour entre ces deux jeunes gens est parfois touchée par la grâce quand même, il y a quand même quelques éléments, il me semble, à sauver. Fabio Ferzetti fait l'amour. Moi, je serais curieux, Arnaud Laporte, dernière question, puisque vous l'avez vu en salle à Paris, est-ce qu'il y avait du monde et quelles sont les réactions en salle? Parce qu'à Cannes, il faut dire que ça ne riait pas beaucoup.
Il y avait du monde, mais alors une salle plutôt éteinte. C'est vrai que j'ai vu pas mal de films ces derniers jours en salle, y compris ceux de Cannes. Et puis là, je vais courir voir une avant-première de Julieta. Mais salle plutôt remplie, je crains que le bouche à oreille ne soit pas bon pour Malout, parce que... Voilà, salle assez atone.
Bah, ce n'est pas très étonnant, enfin, c'est un film glacial, à mon avis.
Oui. Pas très étonnant, oui.
Oui, c'est un peu le cas aussi à Cannes, où après en avoir beaucoup parlé avant, j'ai l'impression que plus personne n'envisage ce film, où que ce soit dans le palmarès, mais on ne sait jamais, avec George Miller et sa bande, aller savoir ce qu'ils vont en penser. Merci Arnaud Laporte de nous avoir...
Il y a une très belle photo, téléphoné. Mais il n'y a pas de palme de la photo. Et ça ne suffit pas pour faire un film.
Ça n'existe plus, la palme de la photo ou de la commission supérieure technique. Maloute de Bruno Dumont est donc sorti vendredi dernier sur tous les écrans et on verra bien ce qui se passera dimanche prochain pour lui.
France Culture, La Dispute à Cannes, Antoine Guillot.
On conclut cette émission avec le jeu de la dispute, en commençant par un retour sur le jeu d'hier soir qui vous a fait gagner des DVD du documentaire Après Hitler d'Olivier Wiewiórka et David Kornbrzoza. Il fallait nous dire, c'est Hugo Boursier qui vous avait posé la question, quel acteur prête sa voix pour ce documentaire? Eh bien, la réponse, c'était Vincent Lindon. A gagné ce soir des DVD du formidable film Toto et ses sœurs d'Alexander Nanao, qui a reçu samedi à Cannes le prix France Culture Cinéma des étudiants, prix Révélation, un DVD distribué par JHR Film. Pour les gagner, répondez donc à cette question. Vers quelle discipline artistique le jeune Totonel, alias Toto, se tourne-t-il dans le film? Votre réponse ainsi que vos coordonnées postales sont envoyées à auditeurfc@radiofrance.com et uniquement à cette adresse. La dispute à Cannes au Palais des Festivals, c'est fini. Merci à vous Jason Solomon, c'est Fabio Ferzetti et bonne fin de festival. Tenez encore quelques jours et merci à Arnaud Laporte d'avoir fait le critique impromptu ce soir. Toutes les informations sur notre site internet www.franceculture.fr à la page de La Dispute, site sur lequel vous pouvez aussi réécouter ou podcaster nos émissions et sur lequel vous pouvez aussi nous écrire. La Dispute, c'est Hugo Boursier, Daniel Finot, Flora Isidore, Virginie Le Duo et bien sûr Arnaud Laporte. À la prise de son ce soir à Cannes, Patrice Klein, et à la réalisation Marie-Laure Ciboulet. Demain, vous retrouverez Arnaud Laporte à Paris pour une dispute qui réunira Corinne Rondeau et Jean-Max Collard autour des expositions La Boîte de Pandore, une autre photographie par Yann Dibetz au musée d'art moderne de la ville de Paris, et Charles Glaire, 1806-1874, le romantique repenti. C'est au musée d'Orsay. On évoquera aussi l'exposition Brick by Brick de Pat McCarthy au Frac Paca à Marseille, pas très loin de là où nous sommes, et l'Observatoire de la Lumière, l'installation de Daniel Buren à la Fondation Louis Vuitton. La revue de presse sera toujours assurée avec talent par Émilie Chaudet. Bachar Marhalife nous fera partager ses goûts en matière d'exposition. Il y aura un jeu. Tout cela, c'est demain à 21h. D'ici là, la soirée se poursuit sur France Culture dans quelques instants, le journal de la rédaction.